Alors, je sais que vous allez bien parce qu'en Jésus, on ne peut qu'aller bien. Il y a des temps de mou, il y a des temps où c'est un peu plus compliqué, mais on sait que le Seigneur nous relève. C'est juste ou c'est pas juste? Voilà, donc on vit dans l'espérance. Peut-être c'est difficile pour toi aujourd'hui, mais tu vis dans l'espérance. Tu as un espoir. Seigneur, tu es, j'ai besoin de toi, on l'a chanté. On a chanté beaucoup de choses qui sont pertinentes ce matin. Esprit de Dieu, inonde mon cœur. Alors voilà, c'est notre prière ce matin. Alors, j'aimerais aujourd'hui que l'on puisse parler ensemble de deux choses qu'affectionne particulièrement le chrétien. Deux choses qu'affectionne particulièrement. Oh, merci Anna, regardez ça, elle est gentille. Elle pense à son père, elle a vu qu'il n'y avait pas d'eau, elle sait que j'ai soif. Alors, deux choses qu'affectionne particulièrement le chrétien. Mais avant de parler de ces deux choses en question, j'aimerais définir ce que j'entends par chrétien. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien dans le monde actuel? Qu'est-ce qu'on entend vraiment au travers de cette façon dont on appelle ceux qui croient en Dieu? Alors, je ne parle pas du sens religieux du terme. Je parle vraiment du sens chrétien au sens biblique du terme. Alors, je ne parle pas de celui qui va dire « Je suis né dans une famille où mon arrière-grand-mère croyait en ceci, en cela, et du coup, peut-être que, éventuellement, j'y crois également. » Je ne parle pas du fait d'avoir été baptisé, quel que soit le baptême que tu as reçu quand tu étais enfant. Eh bien, excuse-moi de te le dire, mais ce n'est pas le baptême en lui-même qui fait de toi un chrétien. Je ne parle pas de ces choses-là, je parle vraiment du sens premier du terme. Vincent nous en a parlé, nous a un petit peu titillé sur ça, mais il nous a dit les vrais chrétiens, c'était les premiers. Oh. Les vrais chrétiens, c'est les chrétiens de Actes des Apôtres. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui ont marché avec Jésus, c'est ceux qui ont reçu son enseignement et c'est ceux qui ont décidé de le suivre. Et je veux te parler de cela, de ceux qui ont dit un jour à Jésus, écoute, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ta voix, et puis je décide d'accueillir tes préceptes, je décide de mettre ma foi en toi, Jésus, et qui décide de le suivre. Je parle de ceux qui ont décidé tout simplement personnellement, qui ont décidé de leur propre chef, de dire, Jésus, c'est toi que j'accueille dans ma vie. C'est ceux-là, les vrais chrétiens. Alors, fais-tu partie de ceux qui ont dit à Jésus, je t'accueille dans ma vie, interroge-toi. Est-ce que réellement je veux te suivre, Jésus? Et on a entendu, j'ai besoin de toi, tu es ma force, tu es ceci, tu es cela. Mais sache que toutes ces choses-là sont réservées aux vrais chrétiens. Sont réservées à ceux-là. Alors dans la Bible, on peut lire tout simplement un passage que vous connaissez très bien, dans Jean 1, versets 12 à 13. Et vous voyez que là, on va lire ensemble, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. On parle ici puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni une volonté humaine. Tu vois, tu peux avoir la volonté de faire le bien dans ta vie, tu peux avoir la volonté de suivre des préceptes qui te construisent, qui donnent des valeurs à ta famille, mais c'est pas ça qui fait de toi un chrétien non plus. Ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, c'est pas parce que j'ai épousé les croyances de mon époux ou de mon épouse que tu es un chrétien. Non, mais qui sont nés de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui a un rapport direct avec le Créateur. C'est intéressant, ça. Et on dit ici que, on va appeler ce chrétien, on va l'appeler enfant de Dieu. La parole de Dieu l'appelle enfant de Dieu. Et vous savez, comme tout enfant rempli d'affection pour son père, moi j'ai un fils qui est rempli d'affection pour moi, et il passe son temps à me coller. Dès qu'il peut, il fait un câlin à papa. Alors moi j'aime ça, mais une fois de temps en temps, tu m'envahis un peu. Je t'aime, hein, chérie, mais laisse-moi respirer un peu. Tu sais, t'as grandi, t'as plus 4 ans, t'es lourd, vous comprenez ce que je dis? Mais tout comme un enfant qui affectionne, son père, il a envie de passer du temps avec lui. Il a envie tout simplement de lui parler. Et vous savez ce qu'a envie l'enfant de Dieu? La première chose qu'il aime, il veut entendre la voix de Dieu. Le chrétien, la première chose qui l'affectionne particulièrement, et j'espère tu vas te reconnaître, c'est d'entendre la voix de son Père, d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose que tu affectionnes? Je peux te dire que tu affectionnes ça, parce qu'on a eu le prophète il y a quelques mercredis, et beaucoup de monde ici. Hein. Ça veut dire que tu avais envie d'entendre la voix de Dieu, et c'est une bonne chose. Tu avais envie d'entendre ce que ton Père a à te dire. Tu avais envie d'entendre si Dieu t'est favorable en ce moment. Tu as envie d'entendre s'il est content de toi. Tu as envie d'entendre s'il n'y a peut-être pas quelque chose à te dire, à te réorienter peut-être. Entendre la voix de Dieu. Nous voulons entendre la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de discerner la voix de Dieu. Est-ce que tu es capable dans ta vie, aujourd'hui, de discerner la voix de Dieu? Oui ou non? Moi, lorsque j'entends la voix de Dieu, tu vois, c'est là que ça m'intéresse, parce que je me rends compte que ma foi n'est pas religieuse. C'est là où je me rends compte que vraiment ma foi, elle est personnelle avec le Dieu créateur de l'univers et qui me parle à moi personnellement pour un sujet tout à fait particulier de ma vie à moi. Et là, je me sens aimé, tu vois. Je me dis, ah, toi là-haut, tu t'intéresses à moi. Ça me fait du bien. Et tu vois, c'est ça qui fait la différence entre le religieux et l'enfant de Dieu qui est capable de se confier en son Père et le Père répond. Tu sais, ce genre de prière où tu parles à Dieu et tu sens qu'il a entendu. T'inquiète pas, chérie, je vais m'en occuper. Je te donne pas forcément la réponse tout de suite. Vous voyez la voix du Père. T'as pas forcément la réponse. Mais je suis là, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Ça te réconforte. Tu dis, ah. Il y a quelques semaines, j'étais vraiment découragé. Vraiment. Découragé. Qui connaît Alexis? Il y a des gens qui me connaissent. C'est quand même rare de me voir découragé, hein. J'étais découragé. Et j'étais dans mon lit. J'étais sur ma couche. Et j'ai commencé à parler à mon Dieu. Je me suis pas mis à genoux avec un chapelet en invoquant je ne sais quoi. J'ai parlé à mon Père. J'ai dit, papa, tu vois mon état. Je peux pas continuer comme ça. Ça va pas, je suis pas bien. Je sais pas dire pourquoi, mais je reconnais qu'il y a quelque chose qui, ça coince. Papa, fais quelque chose pour moi. Et j'ai senti que cette prière, elle s'envolait. Je sentais, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Le jour même, on m'a appelé deux fois pour m'encourager. Dans la semaine, on m'a encouragé. Ça fait trois semaines que je suis encouragé par des gens, par Dieu, par la parole de Dieu, par des conseils. Que Dieu répond à des questions que je ne lui ai même pas posées. Et je me dis, waouh, ça c'est mon Dieu, il est vivant. Ça te fait la même chose? Quand Dieu te parle, et ce que j'affectionne particulièrement, c'est entendre la voix de Dieu. J'espère que tu es comme moi. Avec mon épouse, on a fêté le 9 avril nos 13 ans de mariage. Pas mal. Ça commence à vouloir dire quelque chose. Quand tu dépasses 10, c'est intéressant. Alors je sais qu'ici, il y en a, ils sont bien plus loin. Je vous talonne, les gars. Mais j'étais content, tu vois. Et puis, j'ai appris en 13 ans, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que j'ai appris à écouter ma femme. Tu sais, il y a ce genre de discussion, messieurs, écoutez-moi bien. Ce genre de discussion avec votre femme où elle te parle à un moment où toi, t'as pas envie de parler, mais elle te parle, elle a besoin de t'exprimer des choses. Et toi, t'es là, tu entends, mais tu n'écoutes pas. Et puis quelques semaines plus tard, peut-être quelques jours plus tard ou quelques minutes plus tard, toi, tu dis, chérie, il me semble que tu m'as dit que, et quand tu commences cette phrase-là, tu vois son visage qui change. Tu dis, oula, je suis en terrain miné, là. Et là, tu commences à faire attention. Chérie, tu m'as dit que peut-être que... Et là, elle te regarde, sauf qu'elle, elle n'a pas oublié ce qu'elle a dit. Elle n'a pas oublié ce à quoi elle pensait. Elle n'a pas oublié le sujet de la discussion. Elle n'a même pas oublié la couleur des chaussettes que tu portais au moment où tu parlais avec elle. Elle sait tout. Et là, tu dis, mince, c'est vrai que j'ai entendu, mais je n'ai pas écouté. C'est différent. Sauf que dans un couple... Je suis marié, je suis lié à cette femme-là. C'est-à-dire que toutes les discussions m'engagent personnellement avec elle. Et que si je suis pas engagé à un moment donné, ça peut poser un problème. Et ben, avec Dieu, c'est la même chose. Tu dois savoir que c'est bon d'entendre la voix de Dieu, mais quand Dieu parle, il parle pas pour rien. Alors tu ferais bien d'écouter. Parce que souvent, on entend ce que Dieu dit, mais on n'écoute pas ce qu'il dit. Mais tu dois savoir que sa parole t'engage. Je dis bien toi le chrétien, toi qui as dit « j'ai besoin de toi », toi qui as dit « je t'accepte dans ma vie », toi qui as dit « tu es mon Seigneur ». Sache qu'à chaque fois que Dieu va te parler, ça t'engage personnellement. Et que tu dois faire attention à ce qu'il te dit. Tu dois être attentif. Est-ce que tu me suis ? C'est sympa d'entendre la voix de Dieu. Mais attention. Après, tu rends des comptes. Fais attention à ce que tu demandes. Une fois, j'étais zélé quand j'étais jeune et j'ai commencé à parler à Dieu et puis je vivais vraiment des choses dans la prière. Et j'ai commencé à prier cette prière. J'ai dit, Seigneur, j'étais dans ma voiture, j'avais l'impression que ma foi, elle était habituelle. Et j'ai prié cette prière. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me secoues maintenant. J'ai besoin de vivre quelque chose avec toi. Et j'ai vraiment utilisé ces mots-là. Et puis je suis dans ma voiture, Jésus, viens me secouer, j'ai besoin de toi. Et on avait un invité spécial à l'église. Et puis il vient, il se passe vraiment des choses, il y a la manifestation du Saint-Esprit, les gens sont touchés. Et cet invité me prend par la tête, me prend et me jette par terre. Je suis pas tombé sous l'action du Saint-Esprit. Je me suis fracassé contre une chaise et je me suis retrouvé au sol, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Et là, je me suis souvenu, qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu ? Faut que tu me secoues. Là, j'ai dit, ah ouais, t'as vraiment de l'humour. J'ai joué au malin avec toi ? Ah là, tu m'as secoué. Et ma sœur qui m'a vu à ce moment-là, elle a vu qu'il se passait quelque chose spirituellement à ce moment-là. Mais moi, j'ai rien senti de spirituel. C'était juste un gars qui m'avait secoué. Et puis, je râlais, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible, tu peux pas faire des choses comme ça. Et dans l'église, c'est impossible. Tu vois, si ça se passe, moi, ça m'intéresse pas. Et après, je me suis dit, ouais, mais t'as demandé quoi à Dieu ? Est-ce que t'avais vraiment, vraiment besoin de ce que tu lui as demandé à ce moment-là ? Mais il t'a répondu. Et là, j'ai compris l'ironie de mon Dieu aussi. C'est notre Père, il sait nous. Il connaît notre caractère, il sait comment on est, il sait nous prendre. Est-ce que tu comprends que Dieu sait comment te prendre ? Alors fais attention à ce que tu demandes. Tu dois savoir qu'au départ, avant même d'avoir reçu Christ dans ta vie, il t'appelle. Il peut parler n'importe qui dans ce monde, il est le créateur du ciel et de la terre, il peut parler à n'importe quelle de ses créatures. Il t'appelle, tu entends sa voix, mais c'est un appel. Hello, viens. Et tu as le choix de dire oui ou de dire non. Il te force pas Dieu. Mais si tu dis oui, à ce moment-là, il va falloir l'écouter dans ta vie. Comment veux-tu que je mène ma vie ? Comment veux-tu que je mène ma barque ? Selon quels préceptes ? Comment veux-tu que je m'oriente dans mon travail, dans mon couple, dans ma famille ? Dans chacune des situations, maintenant, je veux te mettre à la première place. J'ai entendu un prédicateur qui a dit « J'aime pas la première place parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres places. » Et c'est juste, hein ? On a dit « Sois le maître en moi, sois tout en moi. » Okay. Sandy, elle a dit que tu puisses tout prendre. C'est intéressant. Alors tu dois écouter. Avec Dieu, je vous le répète, il n'y a pas de parole en l'air. Lorsque Dieu te parle, tu deviens responsable de ce qu'il t'a dit. Maintenant, tu as deux manières de gérer la parole de Dieu. Tu entends, tu as décidé d'écouter, mais tu as le choix, à ce moment-là, Dieu travaille avec toi, de gérer cette parole, soit charnellement, avec tes émotions, avec ta compréhension intellectuelle, avec ce que tu peux comprendre sur le moment, où tu as le choix de prendre du recul et de dire « je vais gérer cette parole comme un homme et une femme spirituelle ». Et là, tu ne vas pas te hâter quand Dieu te parle, mais tu vas dire « Seigneur, qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Où est-ce que tu veux m'emmener ?» Et là, tu rentres dans une discussion avec Dieu, tu vas bien plus en profondeur. C'est pas juste un distributeur automatique où tu dis « Seigneur, parle-moi, il y a une bénédiction qui tombe et tu passes à autre chose. » Dieu veut te parler profondément. Est-ce que tu entends encore sa voix aujourd'hui ? Il parle tantôt d'une manière, la Bible nous dit, tantôt d'une autre. Parfois au travers d'un message, parfois au travers d'une louange, parfois directement dans ton cœur, parfois il y a le Saint-Esprit qui boue. Moi, j'ai déjà entendu sa voix audiblement, j'étais « qu'est-ce qui se passe ?» Mais ce n'est pas toujours comme ça. Mais à chaque fois, ok, qu'est-ce qui se passe ? J'analyse. Est-ce que je suis excité par la situation ? Oh, Dieu me parle ? Est-ce que je prends du recul ? Comment je digère ça ? Et bien là, tu commences à rentrer dans la méditation. Dieu m'a parlé, sa parole est vivante, il veut faire quelque chose. Il faut que j'accueille ça. Il faut que je digère ça pour que ça produise un fruit dans ma vie. La capacité d'écouter, c'est vraiment de faire aller ton entendement. C'est d'éveiller l'homme spirituel. D'ouvrir les oreilles spirituelles. Oula, tu m'interpelles. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme moi, j'étais là. Oula, je vais pas bien. Il faut que je parle à mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse le point là sur moi-même. Attention, danger. Tu vas peut-être trop loin dans tel domaine. Arrête-toi. Il faut écouter. Il te parle et il faut que tu mettes en pratique. J'ai un travail manuel, comme vous le savez. Moi, je suis menuisier ébéniste. Et quand j'ai des stagiaires avec moi, j'ai déjà eu des stagiaires dans certaines circonstances. Un jour, je montre à un jeune comment visser. C'est la base. Il faut visser. Voilà. Je dis, voilà, on a 150 mètres carrés à visser. Tu vas commencer de la manière suivante. Tu prends ta visseuse, tu mets deux vis et tu vas comme ça, rang par rang. Ouais, c'est facile. Oui, c'est facile. Très bien. Je passe, je reviens à autre chose, je passe sur son travail, il manque une vis là. Pourquoi? Parce que lui, il s'est laissé aller dans ses pensées. Il a vissé une là. Il vissait partout, sauf au bon endroit. Ben, je dis, comment on fait? Je t'ai bien dit qu'il y a une rangée, tu visses une, deux, je lui réexplique deuxième fois, il fait encore la même chose à sa tête. Je prends la visseuse, je dis, faut peut-être que je lui montre. Une vis, deux vis, tu bouges tes genoux. Une vis, deux vis, tu bouges tes genoux. Tu fais comme ça. Il se met comme ça. Oui, il est fatigué. Je dis non, tu te mets à genoux. Tu fais comme ça. Tu vas aller plus vite. Il faut être efficace. T'as 150 mètres carrés à faire. Je mets mon cas, je mets la musique. Inefficace. Et en plus, t'oublies du travail. Pourtant, on a dit trois fois. Bah, les conséquences, c'est qu'après, il faut repasser derrière. Donc parfois on entend, mais on n'est pas capable de mettre correctement en pratique. Parce qu'on fait une autre idée. Ah, je sens que je vais être plus à l'aise comme ça. Ah, je sens que peut-être là ce sera plus facile et que j'irai plus vite. De toute façon, il me dit ça, mais lui non, je vais fonctionner comme ça. Dieu te parle, il te donne des conseils, écoute. Parce que c'est là que tu vas être efficace. Alors on va voir trois principes importants pour nous dans l'écoute. Et entendre la voix de Dieu. La première fois que finalement Dieu a, on va voir trois moments où Dieu a parlé à l'homme et l'homme n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Vous allez voir que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, sa parole a le pouvoir de bénir ou de maudire. Et on va voir trois moments qui nous interpellent en tant que chrétiens dans la parole de Dieu, où on voit Dieu qui maudit et où on voit Dieu qui condamne. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais on va en prendre trois. Le premier, vous le connaissez tous, c'est l'histoire d'Adam et Ève. On va lire juste quelques versets de cette histoire. Et vous allez voir, Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, puis le verset 11. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien et mal. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Plus loin en verset, on saute quelques versets, et elle dit, aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Je relève votre attention où Ève reconnaît que, eh bien, nous mourrons, au verset 2, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit. Elle reconnaît que Dieu lui a dit de ne pas manger de ce fruit. Il lui a parlé, lui a donné une parole, elle l'a entendu, elle l'a comprise. Elle sait ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle va dire? Le tentateur va venir, le serpent va venir, va lui dire, écoute, tu devras manger, peut-être que c'est bon. Et là, elle voit que c'est beau et elle va manger du fruit. Et elle reconnaît, quand Dieu revient vers elle, qu'est-ce que t'as fait? N'as-tu pas mangé? Et Dieu dira, n'as-tu pas mangé? Il lui rappelle, je t'avais pourtant dit que. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez l'histoire, la malédiction, eh bien, femme, voilà. Et Dieu va prononcer des paroles qui vont provoquer la malédiction sur l'homme et la femme. Satan tente, Dieu maudit. Dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est capable de bénir ou de maudire. Ensuite, ce Ce que je veux vraiment, dans cette histoire, on peut soulever le fait que le premier principe, c'est fais attention à ne pas vouloir te substituer à Dieu dans ta vie et à vouloir être ton propre Dieu. Je parle bien aux chrétiens là, les chrétiens, ceux qui ont dit Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu règnes dans ma vie. Eh ben maintenant, fais attention à ne pas te substituer à Dieu dans certaines situations et à dire maintenant c'est moi le chef. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas du tout ça. Tu proclames des choses, puis ensuite tu fais différemment. Eh ben là, tu es sous le couvert de quoi? Est-ce que tu penses que tu es sous le couvert d'une bénédiction? Il t'arrive des pépins, tu te demandes pourquoi? Parce que ta propre parole à toi, tu es semblable à ton Créateur et capable de bénir et de maudire. Tu peux te bénir toi-même, te maudire toi-même. Aujourd'hui, vous pouvez lire tous les... Ah, moi, ça me fait rire. Hein. Il suffit que je vais sur YouTube, sur... Je commence développement personnel, il faut être positif, il faut dire ceci, cela. Le meilleur développement personnel, lisez la Bible, c'est très clair. Depuis la nuit des temps, tu peux te maudire, tu peux te bénir toi-même. Et Dieu nous l'a dit. Souvent, on dit, on pense que la foi, c'est une béquille. Moi, je dis aux jeunes, la foi, c'est pas une béquille. Hein. La parole de Dieu, elle nous dit bien qu'il faut être courageux pour vivre par la foi. Parce que dans ce monde qui est contraire à tout prétexte biblique, ben, il faut beaucoup de courage. Mais ça, ton développement personnel, il est là. Fais attention à ce que tu dis. Alors ici, on a quand même la question de ne pas, dans notre cœur, prendre la place de Dieu dans certains domaines. Parce qu'après, tu auras des problèmes, tu vas demander la bénédiction de Dieu, sauf que bah, tu n'as pas écouté ses conseils. Quand l'homme prend la place de Dieu dans sa propre vie. La parole de Dieu, quand tu demandes à ce que Dieu te parle, souviens-toi bien de ça, quand tu demandes à Dieu de te parler, fais attention, sonde bien pourquoi tu veux qu'il te parle. Est-ce que tu veux qu'il te parle juste pour te faire du bien, pour sentir qu'il est vivant, pour... La Bible nous dit qu'il ne faut pas tenter Dieu. Et quand tu tentes Dieu, parfois, tu vas essayer de le provoquer, tu vois. Ah, fais ceci, fais cela. Dieu n'aime pas ça. Et là, quand la parole de Dieu vient dans ta vie, sache qu'elle ne vient pas sans la tentation. Parce que quand Dieu te parle, ça veut dire qu'il veut que tu fasses quelque chose, ça veut dire qu'il y a un plan pour toi, il y en a un, il ne veut pas que tu le fasses, il va venir te tenter. Il va dire, non, mais tu es vraiment sûr que tu as entendu ça? Tu es vraiment sûr que le Seigneur veut que tu ailles là? Moi, je ne pense pas. Mais à partir du moment où tu crois à cette chose-là, tu donnes le pouvoir au malin, et Dieu n'aime pas ça non plus. Parce qu'il exige des enfants de ses enfants, Dieu exige de ses enfants, ce n'est pas juste peut-être si tu as envie, il t'exige de résister au diable. Ce n'est pas un conseil, c'est il te dit résiste au diable, parce que moi je vais parler pour toi, je vais faire des choses pour toi, mais il y en a un qui ne veut pas que ça se passe. Donc je te dis résiste-lui maintenant. Parce qu'au moment où tu ne résistes pas, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu es résolu, à suivre une autre parole que celle de Dieu. À partir du moment où tu es résolu à suivre une autre parole que celle de Dieu, tu fais de Dieu un menteur dans ta vie. Et pourtant, tu déclares « Seigneur, Seigneur ». Mais quand tu crois à autre chose que sa parole pour toi, tu fais de lui un menteur. Et Dieu n'aime pas qu'on dise de lui qu'il est un menteur. Dieu n'aime pas qu'on dise de lui qu'il est un menteur. Alors, tes pensées peuvent tenter de faire mentir Dieu. Tes paroles peuvent tenter de faire mentir Dieu. Tes attitudes peuvent tenter de faire mentir Dieu. Tu me suis? Je ne sais pas si tu me suis. Il y a Jason qui me suit. Ensuite, on va voir le passage suivant. Matthieu 21, versets 12 à 13. Pour vous donner un petit contexte, Jésus est en train d'accomplir une prophétie qui a été donnée il y a bien longtemps, qui va rentrer... Voilà, à Jérusalem, et qu'il va être reconnu, voilà, on va le célébrer, il va rentrer sur l'âne. Vous vous souvenez de cette histoire? On va dire, fils de David, voilà, tu es incroyable, machin, ceci, cela. Donc c'est la fête. Jésus est en train d'accomplir une prophétie. Une prophétie, c'est quelque chose que Dieu a donné pour les temps à venir, et voilà, et c'est en train de s'accomplir. Une journée plus tard, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, il va dire, je vais aller au temple maintenant. Le temple, c'est la maison de Dieu. Le temple était incroyable, il avait été détruit plusieurs fois, mais c'était quelque chose d'exceptionnel, c'était un monument merveilleux. Et Jésus, il y va, et puis qu'est-ce qui se passe? Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, il renversa des tables, des changeurs de monnaie, et les sièges des vendeurs de pigeons, il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus y est fâché là. Quand tu lis cette histoire-là, Jésus qui bénit, Jésus qui est gentil avec tout le monde, Jésus qui, oui, dit la vérité, mais qu'est-ce qu'il est bon? Et puis là, il se fâche, tu vois. C'est un peu comme en Éden, Dieu dit, c'est pas possible, je peux pas permettre ça. Ben, Jésus, il dit, je peux pas permettre ça. Donc pour l'histoire, eh bien à ce moment-là, eh bien les gens viennent, si vous voulez, au temple, c'est au moment des fêtes, et ils viennent répondre à leurs obligations religieuses. Et pour ça, il faut suivre la loi de Dieu, il faut des sacrifices, vous devez amener un tribut, ce tribut, c'est un tribut qui doit être payé dans la monnaie de l'époque, pas avec la monnaie romaine. Et là, il y a des gens, vous savez, on vit en Judée, il y a beaucoup de brigands, il y a beaucoup de voleurs, il y a des gens qui se cachent dans les cavernes, qui montent des plans pour vous voyez, tout simplement vivre, survivre et par la méchanceté. Eh bien, les gens vont se dire, bah là, il y a du profit à faire. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va échanger, eh bien, son argent, moi, je vais faire du bénéf. Et je vais faire ça en plus dans la maison de Dieu. Et quand quelqu'un aura besoin des pigeons parce qu'il n'aura pas pu ramener ses pigeons, je vais lui vendre, mais deux fois le prix. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de voler même les pauvres, même ceux qui n'ont pas grand-chose, on leur réclame les choses. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je supporte pas ça. Ça, c'est la maison, c'est son objectif, le plan de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on puisse louer Dieu ici, et vous, vous faites une caverne de voleurs. Et il va chasser qui? Non seulement les vendeurs, mais il va chasser ceux qui achètent. Parce qu'ils vont dire, tu participes. Et Jésus se fâche. Il dit, c'est pas possible. Les vendeurs, vous voyez, ils ont été influencés par la mentalité de ce monde à ce moment-là. Ils sont influencés. Ils ont laissé l'influence rentrer, puis voilà, on va faire des choses comme tout le monde, et puis on va être léger, vous voyez. On peut parfois être des chrétiens légers. On ramène certaines choses dans l'église. On ramène certaines choses dans la maison de Dieu. On dit, mais ça va, ça va. Certaines attitudes qu'on a connues dans le monde, on les ramène dans l'église. C'est, ah, ça va. Ah non. Avec Dieu, c'est pas ça va, c'est soit à 100%, soit on est saint, soit on demande pardon parce qu'on ne l'est pas encore. Mais il n'y a pas je tolère le péché. Ça n'existe pas en fait. Mais parfois on tolère, tu vois. Et quand tu tolères, passe sous l'influence de quelque chose, tu te sépares un peu de la volonté de Dieu pour toi. À nouveau, est-ce qu'il y aura la bénédiction dans ta vie? Jésus va renverser les tables dans ta vie. Il va dire, ça suffit. Arrête ça. Parce que ça, je ne tolère pas. Tu veux le compromis? Je me retire. Tu dis que je suis ton Seigneur, tu es dans le compromis? Je me retire. Dieu est un Dieu jaloux, il veut tout de toi. Amen. Le troisième passage, un passage qui, ah, celui-là, il m'a fait me gratter la tête pendant des années. Hein. Je disais, c'est pas possible cette histoire quand même. Dieu, toi, tu peux pas faire ça. On va lire Actes 5, verset 1, 11. Je vous rappelle, hein, les vrais chrétiens, c'est ceux-là, hein, Actes, ceux qui ont suivi Christ. Pour le contexte, on va lire une histoire. Vous avez des apôtres qui sont là et puis, il se passe vraiment des choses, ils prêchent l'évangile, les gens viennent à Christ, ils sont touchés, et puis ils font un miracle. Et ce jour-là, les sacrificateurs vont dire, vous ne pouvez pas faire ce miracle-là. Et maintenant, on va vous prendre, ils vont les prendre, ils vont les exhorter, ils vont dire, vous arrêtez de parler au nom de Jésus. Et la suite, on en arrive là, vous avez vraiment des hommes qui ont pris la cause de Christ, Dieu les bénit, et au travers d'eux, vraiment, ils marchent par l'esprit, et Dieu les bénit, il fait des grandes choses. Et là, vous allez voir la suite. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété. En accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Comment as-tu pu laisser Satan à tel point envahir ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit. En cachant le prix réel de ton champ, pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Personne qui t'a forcé, mon gars. Ou même après l'avoir vendu, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Tu vends, garde ton argent, on t'a rien demandé, mon gars. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Attends, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui nous fait le Ananias là? Qu'est-ce qui nous fait Dieu? Le gars, il vient, il est bien intentionné, il veut donner de l'argent, il veut utiliser ses biens pour bénir l'œuvre de Dieu, et il tombe raide mort. La suite. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias... Ouais, on n'a pas Facebook, on n'est pas dans l'immédiateté, elle apprend ça 3 heures plus tard. La femme, là on aurait déjà eu la une dans les journaux chrétiens, Facebook, un homme est mort au phare parce qu'il a menti à Dieu. Oui, ce serait déjà aux États-Unis. Elle apprend ça 3 heures plus tard. Pierre lui demande, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là, elle a une chance de pouvoir dire non, bon, il y a une erreur. Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église ainsi qu'à tous ceux qui l'entendirent. Dans cette histoire, la réalité, c'est qu'on a une confrontation entre ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui ne marchent pas par l'esprit. Vous avez des hommes de Dieu qui ont consacré leur vie, qui ont tout abandonné, qui ont dit « Jésus, nous accueillons ta cause, on va au bout des choses, on va vivre pour toi, on va voir ta gloire, on voit les miracles, on marche avec vraiment ton assistance. » Et vous avez des gens qui voient ça, ils ont envie de profiter du moment. Ils ont envie de faire partie de cette bande-là, tu vois. Ils ont envie de faire partie de cette bande de chrétiens, voilà, qui sont zélés. Mais en fait, eux, ils sont pas prêts à tout donner. Ils sont juste prêts, ces genres de chrétiens, ils ont envie d'être de ceux-là, mais ils ont pas envie de tout donner. Ils ont envie qu'on dise, ouais, toi, t'es du phare. Mais en fait, je m'implique pas, tu vois. Ils ont envie qu'on dise d'eux, mais toi, t'es avec Jésus, t'es avec les apôtres, tu fais de grandes choses. Ils ont envie d'être associés à ça. Mais ils sont pas prêts à payer le prix. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, on va vendre et puis on va leur dire que c'est tout ce qu'on donne, on va se mousser un peu. Nous, on a béni l'Église. Nous, on a béni l'œuvre de Dieu, mais derrière, on va garder un peu pour nous. Et ben là, tu mens à qui? Tu sais, nous, quand on fait ici les offrandes, c'est pas pour nous. Hein. C'est devant Dieu, on honore des préceptes bibliques. Ça veut dire que si tu mens, c'est pas à moi que tu mens, c'est à Dieu. Et c'est ce qui se passe, en fait. Si on veut faire les beaux devant Dieu, on veut jouer aux chrétiens. Et là, ils vont lui dire, mais attends, tu sais que tu n'as pas menti à moi, tu as menti à Dieu. Tu sais que tu aurais pu garder ton argent, tu aurais pu attendre, tu aurais pu rester comme dans ton état. Mais là, on ne rigole pas avec le Saint-Esprit. Tu peux dire des choses sur Jésus, mais vous, dans les deux histoires-là, c'est deux histoires où on a soit volé Dieu, soit menti à Dieu, soit menti au Saint-Esprit. À ces deux-là, on ne rigole pas. On ne rigole pas avec le Père et on ne rigole pas avec l'Esprit. Parce qu'à nouveau, tu fais de lui un menteur, tu fais de lui celui qui n'est pas capable, alors que ce n'est pas vrai. Et Jésus, il ne peut plus te défendre là. Il dit, tu es en connaissance, tu connais la parole de Dieu, tu sais les choses, et pourtant tu fais quand même. Je ne peux plus rien faire pour toi. On veut être associé à Christ pour profiter de ses bienfaits. Tu vois, en fait, la deuxième chose qu'aiment encore plus les chrétiens, tu sais c'est quoi? Ce qu'aiment encore plus les chrétiens, ce qu'ils affectionnent au-dessus d'entendre la voix de Dieu. Limite, s'ils pouvaient enlever le numéro 1 pour mettre le numéro 2, ils mettent le numéro 2. C'est ils aiment être bénis de Dieu. Mais qu'est-ce que j'aime ta bénédiction, Seigneur? J'aime quand il y a des choses qui se passent pour moi et que tu tends ta main pour moi. Ça, on aime bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien ça? Moi, j'aime bien. Hein, j'aime bien être béni de Dieu. Parce que ça montre que mon Dieu est actif. Ça montre que son esprit est véritable. Ça montre qu'il agit encore aujourd'hui. Ça montre qu'il est vivant. Si tu connais pas la bénédiction de Dieu, c'est que t'as pas connu Dieu. Parce que la bénédiction, c'est l'action de Dieu pour toi, dans une situation particulière. Alors on aime être béni. Mais là, la question, c'est que Dieu, lui, il a tout donné pour toi. Il n'a rien retenu. Il a donné son Fils. Il t'aime d'un amour, tu ne peux même pas expliquer. Et il n'y a rien retenu pour toi. Dieu a envie de te bénir, il a envie de t'aimer, il a envie de tout partager avec toi. Il a dit, je te partagerai même ma gloire. Un jour, tu seras avec moi là-bas, tu connaîtras ma gloire. Sur terre, tu seras capable de vivre grâce à Jésus, digne du Père. Et je vais partager même ma gloire sur cette terre avec toi. Ça, c'est l'intention de Dieu pour toi. C'est son intention. Il compte pas pour ses enfants. Tu es l'enfant de Dieu, il compte pas pour toi. Parfois, il va donner plus à toi, et le lendemain plus à toi, et le lendemain un peu plus à moi, mais et après ce sera ton tour, et d'un coup, il bénit tout le monde. Dieu veut te bénir. La bénédiction fait partie de la vie du chrétien, fait partie des promesses pour sa vie. Mais toi, alors que Dieu est prêt à tout pour toi, pourquoi tu retiens? Et tu dis, Seigneur, t'es tout pour moi, mais je retiens. Je retiens quand j'ai un frère, tu vois, qui a besoin, je retiens. Parce que moi, j'ai mes investissements immobiliers, tu comprends, plus important que mon frère qui souffre. Tu retiens parce que finalement, tes objectifs personnels sont tellement magnifiques. Tu veux réussir. Tu as vu un gars sur YouTube, il t'a dit l'indépendance financière, tu cours à bras grands ouverts. Qu'est-ce qu'il te demande Dieu? Il t'a dit, pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu as besoin? Je suis ton père, je vais te bénir. Mais toi, tu crois plus en tes capacités à investir qu'en Dieu qui peut te bénir. Tu crois plus en tes capacités à faire toutes sortes de choses qu'à Dieu qui peut te bénir. Et tu fais de Dieu un menteur. Dans ton cœur est partagé. Je te le dis clairement, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça parce qu'il veut disposer pour toi. Il veut faire des grandes choses avec toi. Il veut être chaque jour avec toi, que tu puisses lui parler. Tu puisses lui dire, Seigneur, j'ai du mal en ce moment. Il faut que tu m'aides. Que tu puisses compter sur lui chaque jour. Pas compter seulement sur tes propres forces. Dieu veut faire partie de ta vie à 100%. Ne retiens rien. Arrête de cacher des choses. C'est l'intention de Dieu pour toi. Est-ce que tu me suis? Je le répète, Dieu n'accepte pas qu'on fasse de lui un menteur. Qu'on ne croit pas que Christ est capable de réellement nous pardonner. Tu as fait des fautes et tu dis, mais je ne crois pas que Dieu puisse me pardonner. Quand tu penses comme ça, c'est la tentation du malin. Tu dois résister aux mains. Si Seigneur, ta parole dit que tu peux me pardonner et je reçois ton pardon par la foi. Et quand je le reçois par la foi, il se passe quelque chose dans ma vie, je suis libéré. Parce que Dieu veut te libérer. Mais c'est en Jésus seul. C'est pas parce que le pasteur y a prié pour toi, c'est pas parce que tu as fait un pèlerinage, c'est pas parce que tu as fait toutes sortes de choses, que tu as invoqué je ne sais quoi. C'est parce que tu mets ta foi en Christ et tu dis, Jésus, si tu es vraiment mort pour moi, tu peux me pardonner. J'ai des doutes, je crains. Seigneur, je te confie mes doutes. Fortifie-moi, je ne veux pas céder à cette tentation-là. Je crois que tu es mon Dieu. Et là, Dieu te renouvelle. Dieu ne veut pas que tu doutes sur la qualité de son règne dans ta vie. Que tu dises, non, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça, je vais gérer moi-même. Bah, tu fais de Dieu un menteur. Tu te laisses tenter à certaines pensées. Quand tu commences à ne plus croire en la puissance de transformation du Saint-Esprit, je vais m'améliorer par mes propres forces. Ah, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est je reconnais mes fautes. Je vais devant Jésus, je lui demande pardon. Sa grâce, qu'est-ce qu'elle fait, sa grâce? Elle me couvre. Sa grâce me couvre, ça veut dire que je suis maintenant acceptable devant Dieu parce que j'ai invoqué Jésus-Christ, son sang, son œuvre, ce qu'il a vraiment fait pour moi. J'invoque son sang. Je dis, couvre-moi par ta grâce. Et là, Dieu, il ne me voit plus de la même manière. Il dit, ah, mon fils, il a tout donné pour lui. Et après, je crois en quoi? Je crois en la puissance du Saint-Esprit qui est capable de me transformer. Mais quand tu ne crois pas en la puissance du Saint-Esprit, tu n'attends pas des transformations dans ta vie? Parce qu'il n'y aura rien. Parce que tu as attendu une semaine, deux semaines, un an, deux ans, tu ne crois plus en la puissance de la transformation du Saint-Esprit, en son œuvre pour toi, en sa capacité à te réveiller, à susciter des choses. Ben, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Et à un moment donné, tu te poses la question, pourquoi je ne vis plus par la foi depuis 6 mois? Parce que tu as attristé le Saint-Esprit, tu vois. Tu lui as dit, je ne crois plus. Par une pensée. Parce que peut-être tu t'es éloigné de la vérité de la parole de Dieu. Et tu ne vois plus l'œuvre de Dieu dans ta vie. Deutéronome 11, versets 26 à 28. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Je vous l'ai dit, Dieu est un Dieu jaloux. Sa parole nous dit, c'est soit t'es chaud, soit t'es tiède, soit t'es froid. Tiède, ça l'intéresse pas. Le compromis, ça l'intéresse pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Il préfère quelqu'un qui croit pas en Dieu, qui veut rien savoir de lui, que quelqu'un qui fait semblant que peut-être il y a quelque chose. Ou alors, t'es rempli de feu, tu dis, Seigneur, moi, ok, j'ai signé, je suis engagé envers ta parole, j'ai reçu ta parole de vie, je suis engagé envers elle, je rends des comptes à ta parole. Si ta parole, elle dit ça pour ma vie, je l'accueille. Si je ne le vois pas encore, je vais le recevoir plus tard. Mais je ne ferai pas de toi un menteur. Est-ce que tu me suis ? Voilà ce que le chrétien aime. Il aime entendre. Il aime être béni. Mais qu'est-ce qui est prêt, lui, à donner pour Dieu ? Pour voir la bénédiction. Chaque jour, on a un choix. On marche dans la bénédiction ou on marche dans la malédiction. Je suis en connaissance du fait que Dieu m'aime, qui a donné sa vie, je l'ai accepté. Alors faisons attention à nos paroles. Faisons attention à ce que nous croyons, à ce en quoi nous soupirons, ce après quoi nous courons. On dit, Seigneur, je veux ta volonté pour moi aujourd'hui. Tout est à toi. Ensuite, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a des enfants de Dieu ici ? Il y a des enfants de Dieu ici ? Dieu veut te bénir de toutes sortes de bénédictions que tu ne peux même pas imaginer. Pourquoi tu t'en prives ? Pourquoi tu t'en es privé la semaine dernière quand tu t'es comparé à ton frère parce qu'il avait une plus belle voiture que toi ? C'est quoi ça ? C'est la convoitise ? Pourquoi tu t'en es privé quand tu t'as critiqué un tel ou un tel ? Ben ça, c'est l'esprit de ce monde. Seigneur, pardonne-moi. Tu vois, c'est encore dur pour moi, mais je ne veux pas me priver de tes bénédictions. Seigneur, aide-moi à aimer mon frère et être content pour lui. Aide-moi, s'il te plaît, vraiment à me réjouir parce que tu l'as béni. Moi, je veux goûter à ta bénédiction. Parce que vous savez, dans ce monde, on s'occupe aujourd'hui beaucoup de notre âme. Je vous l'ai dit, le développement personnel. Tu veux du développement personnel, lis la Bible. Elle va te mettre face à tes faiblesses, face à tes réalités. Et là, tu seras face à un choix. Je choisis de croire en Dieu ou pas. Ensuite, eh bien, voilà, c'est quelque chose qu'on fait dans le monde. Le développement, maintenant, c'est la mode. On n'en parlait plus, et maintenant, ces 10 dernières années, c'est l'explosion. Mais moi, la parole de Dieu, ce qu'elle a en plus, c'est qu'elle me permet de garantir mon éternité. Non seulement je prends soin de mon âme, non seulement avec la parole de Dieu, je prends soin de mon corps, et en plus, je prends soin de mon éternité. Mais ça nécessite de croire fermement en la parole de Dieu et en tous ses bienfaits pour ma vie, pour ma famille, pour mon travail. Amen. Dieu veut te bénir. Écoute sa parole. Ne fais pas semblant juste de l'entendre, mais écoute sa parole. Laisse-la pénétrer en toi. Dis, Seigneur, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que ça, je le vis vraiment ? Faut que ça bouge. Faut que ça change. Si tu es vivant, faut qu'il se passe des choses. Est-ce que tu es avec moi ? Est-ce qu'il y a toujours des enfants de Dieu ou juste des chrétiens ? Ah non, il y a des enfants de Dieu ici qui veulent avancer avec Dieu. Tu veux avancer avec Dieu avec moi ou je suis tout seul ? On a tous des moments où c'est un peu le bas, tu sais, il ne faut pas non plus se culpabiliser. Hein. Mais il faut être conscient de la réalité. La parole de Dieu est vivante, elle est agissante, elle est puissante. Souviens-toi de ce que Dieu t'a peut-être dit quand tu as donné ta vie, tu t'es venu vers lui, tu as peut-être donné des promesses, tu les as mises de côté. Reviens à ça, reviens à tes certitudes. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de nouvelles convictions là. Réveille-moi. Je veux voir plus. Ça, c'est l'espérance. C'est bon ? Amen. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, si vous le voulez bien. Il y a des gens de prière ici ou c'est seulement... C'est marrant, c'est ce que je vous dis toujours. Dans la prière, on aime bien s'incliner. Vous savez, ça, c'est les restes. C'est, attention, hein, mais je vais m'exprimer. Parfois, c'est les restes de la religiosité. Parfois, c'est réellement un signe qu'on s'incline devant Dieu. D'accord ? Seigneur, je m'incline devant toi. Ça ne doit pas être religieux, nos attitudes. Seigneur, je m'incline devant toi, vraiment. C'est un geste d'humilité. Mais pas juste parce que j'ai une dévotion incertaine quelque part. Non. Seigneur, je veux vraiment te presser. Si tu as besoin de te lever, tu te lèves. Si tu as besoin de t'allonger, tu t'allonges. Il n'y a pas de règle. L'important, c'est la sincérité de ton cœur dans la prière. Alors Seigneur, ce matin, on est ensemble. Jésus, on a lu ta parole. Seigneur, tu nous interpelles. Seigneur, on a vu que tu nous as tellement aimés que tu es prêt à tout donner pour nous. Seigneur, tu as donné ton Fils pour nous, tu nous as donné l'espoir, l'espérance. Et Jésus, ceux qui ont cru ont un héritage incroyable avec toi. Seigneur, moi je suis de ceux qui ont cru. Et Seigneur, je sais que j'ai un héritage incroyable avec toi. Et Seigneur, je veux goûter à cet héritage déjà sur cette terre. Merci parce que tu n'es pas un papa qui nous fait attendre jusqu'à ta mort. Parce que toi, tu es déjà mort, tu es ressuscité. Ça veut dire qu'on a déjà accès aux bénédictions. Seigneur, merci pour les bénédictions à venir dans nos vies. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce qui nous couvre de tellement de fautes. Mais Jésus, on veut être sérieux avec toi. On veut être sérieux avec ta parole. On veut entendre et on veut être des personnes qui écoutons profondément, qui essayons de comprendre ton cœur et pas être centré seulement sur nos intérêts personnels. Jésus, on veut plus de toi. On veut goûter à ta présence. On veut goûter à ton action dans nos vies. Jésus, je pense à certaines personnes, Seigneur, qui dans cette pièce, Seigneur, ont été persécutées parce qu'ils t'ont reçu. Des gens qui sont passés à côté de la mort juste parce qu'ils ont confessé ton nom. Seigneur, je te prie de les bénir abondamment. Jésus, ils ont prouvé leur foi. Seigneur, je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont affronté, Seigneur, des choses difficiles. Il faut être courageux pour être chrétien. Et Seigneur, c'est des combats, Seigneur, dans la famille, Seigneur, c'est des combats dans le travail. Seigneur, honore leur foi, s'il te plaît. Parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Tu es un Dieu vivant. Tu nous vivifies par la foi. Seigneur, merci parce que tu vas agir dans notre réalité. Merci Seigneur, nous t'aimons Jésus et nous voulons manifester notre amour par le don de nous-mêmes Jésus, par notre obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices Seigneur, que les attitudes Seigneur, que le faire. Avant de faire, on veut être Seigneur, on veut être des enfants de Dieu. Mais on veut pas jouer aux chrétiens Seigneur. Jésus, aide-nous dans nos faiblesses. Tu nous l'as dit que tu es là pour nous aider. Tu es là pour nous relever, mais soyons sincères avec toi, Seigneur. Je t'interroge ce matin, est-ce que tu es sincère avec le Seigneur dans tes démarches avec lui? Est-ce que tu es sincère dans tes démarches, dans ton service, dans l'église avec lui? Est-ce que tu es profondément sincère dans tout ce que tu fais pour le Seigneur et avec lui, dans ton couple, dans ta famille? Remets-toi en question et tu dis, Seigneur, sonde mon cœur maintenant, Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Ah Jésus, merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais. Merci Jésus.